Bonjour et bienvenue à Scal 17-18 avec Fulgence Blau au micro et Maurice Bolduc à la technique. C'est la dernière de la semaine, c'est vendredi. Belle journée d'ailleurs et voilà, on va en profiter. Première partie d'émission, je vous ai concocté quelques différents sujets. En deuxième partie d'émission, je vais recevoir Nicolas Lemieux qui est directeur artistique et président de GSI Musique. On va parler de la célébration de la femme, on va parler de la célébration de la fête des mères avec Bébé Symphonique. Bébé Symphonique, c'est un coffret CD, livre, magazine, ensemble cadeau d'ailleurs, qui vont plaire aux tout petits et aux mamans également. La fête des mamans, c'est bientôt là. Voilà. Alors, restez à l'écoute. Voilà. En deuxième partie d'émission, si vous voulez en savoir plus, avec Nicolas Lemieux, qui est le président de GSI Musique, pour nous parler de son coffret. C'est parti tout de suite en musique avec Playing for Change, Congo to Mississippi.
1, 2, 3, 4. From the Congo to the Mississippi, I wanna see people living free. From the Congo to the Mississippi, Bomoy Malambo, gonna batten your soul. I've heard it said, I've heard it telling me, be the change the world wanna see. But how such a simple truth could remain such a mystery? Oh, oh, oh. From the Congo to the Mississippi, I wanna see people living free. From the Congo to the Mississippi, Lucibula Masita, la singa montemo el solo. Tu vila cana, mami mantama, atulundanga mutima mieto, e bangaka Lucibula Masita, la singa montemo el solo.
Mississippi,
for change, from the Congo to the Mississippi, from the Congo to the Mississippi. Le Congo, c'est un fleuve hein, qui dirige les deux Congos d'ailleurs, la République démocratique du Congo et la République du Congo, c'est-à-dire from the Congo to the Mississippi, parle d'air. Bateaux esclavagistes qui étaient remplis d'esclaves qui partaient du fleuve Congo jusqu'au fleuve Mississippi aux États-Unis. Voilà, en gros, c'est une chanson très, très, très historique qui parle, qui fait un clin d'œil à l'histoire. C'est ce que j'aime bien, ça. Voilà, d'une tristesse, mais je l'adore quand même. Programmation du Musée des Beaux-Arts, le 11 mai, ça devient sous conférence, temporalité des changements climatiques. Dans le cadre de l'exposition Nicolas Parti, le jeune peintre suisse, l'heure mauve, qui continue d'ailleurs, le Musée des Beaux-Arts de Montréal s'associe à la Fondation Graham pour l'art et l'environnement afin de pouvoir présenter une conversation entre Stéphane Aquin, directeur général du Musée des Beaux-Arts, et puis Heather Davis, professeur de New School New York, lauréat 2022 de la résidence de recherche de la Fondation, auteur de Plastic Matter en 2022, et Joanne Lamoureux, titulaire de la chaire de recherche du Canada en muséologie citoyenne à l'Université de Montréal. Et donc, ça va être le 11 mai à 17h30. C'est bilingue en français et en anglais. Auditoriol Marcel Cummings. Et puis bon, les membres, crédit gratuit pour les membres du musée. Non membres, $4, frais de réservation. Il faut réserver. Hein. Et le 13 mai, c'est danse icône pop Mélanie Demers, oui. Donc, le Musée des Beaux-Arts est très, très, très heureux de l'accueillir. Et chorégraphe et performeuse, lauréate du Grand Prix de la danse de Montréal en 2021, pour une représentation spéciale de sa pièce icône pop, transformée pour faire écho à l'exposition Adam Pendleton, ce qu'on a fait ensemble. L'œuvre des dansées sera présentée lors d'une unique représentation. Voilà, je dis bien, c'est le 13 mai. 13 mai à 14h, Carré d'art contemporain. Et n'hésitez pas, pour les membres, c'est gratuit. Et pour les non, il va falloir devenir membre maintenant. Et pour les non-membres, c'est l'achat d'un billet d'admission générale. Il faut toujours réserver, hein, pour les non-membres surtout. Même pour les membres aussi, il faut réserver. Les laisser passer pour la représentation seront offerts au comptoir d'accueil à partir de 10h. Le jour même aux personnes détenant un billet d'admission générale. Place limitée, priorité accordée selon l'ordre d'arrivée. Premier arrivé, premier servi. C'est comme ça. Et puis le 16 mai, il y a la conférence Jason Fargo. L'art au mépris de la circulation virale des images d'ailleurs. Et Art Speaks, c'est-à-dire l'art parle. Voilà, c'est ça. L'art au mépris de la circulation virale des images. Art Speaks. Et le Musée des Beaux-Arts qui présente cette conférence inédite sur le thème de la critique d'art à l'ère numérique. On n'en a pas fini parce que dans la deuxième partie de mon intervention d'animation, je vais parler d'ailleurs des hackers, les pirates informatiques. Et donner pour l'une des plus importantes voix de la critique d'art actuelle, Jason Fargo du New York Times. Oui, ça c'est intéressant, ça va. Le lundi 16 à 18h en anglais. Gratuit pour les membres et non-membres, c'est $4. Faut réserver. Voilà, et puis il y a le 18 mai, partie monochrome bleue. Ouais, c'est une belle photo que j'ai vue d'ailleurs sur le site du Musée des Beaux-Arts, dans le communiqué que j'ai reçu. Un mercredi par mois, de 17h à 21h, le parti monochrome célèbre un colorama, une thématique présentée dans les salles de l'exposition Nicolas Parti. L'heure mauve. Ah, il fait son petit bout de chemin, le jeune peintre suisse au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Voilà. Qu'est-ce qu'il va avoir? Oui, oui, au programme visite de l'exposition à moitié prix, ambiance musicale par DJ, OG, PB, cocktail monochrome, atelier créatif et cabine photo. À 19h, rendez-vous au cinéma du musée pour assister à la projection du film d'Ersu Uzula d'Akira Kurosawa. Voilà, sélectionné par Nicolas Parti spécialement pour l'occasion. Le 18, de 17h à 21h. Salle de l'exposition Nicolas Parti, l'heure mauve et cinéma du musée gratuit pour les membres et pour les non-membres du musée, c'est $12. Réservez, s'il vous plaît. Ne vous pointez pas là-bas pour dire je vais acheter un billet pour aller voir ça. Faites la réservation en ligne, c'est mieux comme ça. Et le 25 mai, il y a les grandes rencontres avec Claire Bernardi du musée de l'Orangerie de Paris. C'est dans le cadre d'une nouvelle série de rencontres avec des acteurs incontournables qui façonnent le musée du 21e siècle. Donc allez-y entendre Claire Bernardi, qui est conservatrice en chef du patrimoine et directrice du musée de l'Orangerie à Paris. Donc, depuis sa rénovation complète en 2006, le musée de l'Orangerie est entré dans une nouvelle ère. Comment faire vivre une institution historique au présent? C'est ça. Comment appréhender ces œuvres insignes réalisées pour la plupart il y a plus de 100 ans à l'orée du 20e siècle et comment les présenter au public d'aujourd'hui? Voilà, mercredi 25 à 17h30, auditorium Marcel Cummings. Gratuit pour les membres, pour les non-membres, c'est 4 dollars. Réservé, c'est pareil. Et la salle Bourgie qui fait le lancement de sa deuxième saison, la salle Bourgie vient de dévoiler sa programmation de la saison 2022-2023. Si à l'image des précédentes d'ailleurs, variété audacieuse, inspirante, avec un mélange de nouveautés, d'incontournables, des musiques de tous les styles, seront représentés du classique au jazz en passant par les musiques du monde et la création contemporaine. C'est aussi la saison la plus ambitieuse d'ailleurs depuis l'ouverture de la salle en 2011 avec près de 130 événements. Et puis cinéma du musée pour terminer avec le musée des Beaux-Arts. Ne manquez pas la séance exclusive de Trépiani avec sous-titre français, du fameux Nanni. Je dis bien Nanni, pas Nami. Nanni Moretti dans le cadre du cycle Les Retours en Italie, le 5 mai, qui est déjà hier, le film documentaire Shalom Pouti avec sous-titre français ou anglais de Thomas Walsmer et les nouveautés. Ça me dit quelque chose, Shalom Pouti. Et les nouveautés du Chocolat pour la paix avec sous-titre français de Jonathan Kaiser. Dès le 6, oui, c'est aujourd'hui. Et bien. Et Love Story avec sous-titre français de Frédéric Moser dès le 13 mai. Alors, j'ai fini comme ça avec la programmation que j'ai pu avoir du Musée des Beaux-Arts. Pour les intéresser, allez-y sur le site simplement du Musée des Beaux-Arts. Vous allez voir toutes ces informations que je viens de vous donner. Et puis, faites vos réservations avant d'aller. Vous pointez pas là-bas pour dire je veux voir tel événement. On va en musique? Merci.
Il n'est pas question d'aventure, séduire le temps disparu. Le cœur garde pour toujours malgré nous, en mémoire nos amours. Peu importe les voyages que l'on fait jusqu'au bout de nous-mêmes. Le cœur reste pour toujours malgré tout, fidèle au rendez-vous. Plonger trop loin l'aventure. Difficile d'en revenir. La musique me faisait mal, même banale, c'est pire. Casser la gueule de mes souvenirs, en changer les images, trahir le secret de tes désirs, le démolir. Éternelle histoire d'amour, quelques coups de téléphone, jouer comme personne le rôle d'un fou. Aujourd'hui, le temps m'épuise. J'ouvre mon jeu comme un livre. J'avais trop peur pour moi, c'était trop doux. Amoureux tout d'un coup. Laisse ma chanson prédire, princesse, que malgré nous, tout ce que l'on a pu vivre dans nos cœurs restera toujours. Casser la gueule de mes souvenirs, en changer les images, trahir le secret de tes désirs. Pas question d'aventure, pas question d'aventure. Oh non.
Dubois, pas question d'aventure. Voilà, on l'a entendu hier de la part du gouvernement du Québec qui va payer des primes aux bugs à des pirates informatiques pour identifier des failles. Ah, ça va dépenser, mais quand j'ai vu le montant qu'il propose, je me suis dit, mais est-ce qu'il y aura vraiment des gens qui vont aller là? Parce que là, vraiment, faut que je profite de ça pour parler un peu des différents types de hackers, de pirates informatiques qui existent d'ailleurs. Donc le gouvernement du Québec fait appel à des pirates informatiques et des chercheurs pour trouver des failles qui peuvent compromettre la sécurité des données de Québécois dans les systèmes informatiques du gouvernement. C'est hier que ça a été annoncé, hier. Alors on se dit, le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric, qui en a fait l'annonce hier lors d'une conférence de presse, hier après-midi, c'était jeudi après-midi. C'est la première administration publique au Canada à rendre disponible un programme de cette nature-là. Je sais que ça existe ailleurs, parce qu'il y a d'autres gouvernements qui font ça depuis fort longtemps. Combien ils veulent payer? Entre $50 et $7,500 chaque fois qu'ils vont identifier un problème de sécurité informatique sur un site du gouvernement. $50 et $7,500. Alors, moi, je vais vous parler un peu de c'est quoi un pirate informatique qu'on appelle originellement un hacker. Les hackers, au début, il y avait trois types de hackers. Au début, il y avait les white hats, et puis bon, les green hats. Les white hats, c'est ceux-là qui, par exemple, que ce sont pas les bad boys, c'est pas les garçons mauvais, c'est les bienveillants, ou bien, c'est les pirates, qu'on appelait les pirates éthiques à l'époque. Et puis les blacks, ceux-là, c'était les malveillants, des vrais pirates, là. Et puis bon, les gris, là, ils étaient entre les deux. Ils ne sont ni mauvais, ni éthiques, ni mauvais, ni méchants, et ils savent pas où aller. Et puis, avec le temps, puisque la technologie, le numérique fait partie de nos vies maintenant, il n'y a plus que ça maintenant. Il y a plus d'une dizaine de types de hackers, de pirates informatiques. Voilà, il n'y a plus que ça. La technologie évolue, donc les hackers évoluent aussi, changent. Et je sais bien qu'il y a des écoles de hackers, les premières écoles de hackers qui étaient ouvertes à l'époque, aux États-Unis, à Moscou, là, les gens allaient se former pour devenir hacker. Maintenant, c'est devenu une profession de toutes les façons. Parce que toutes les entreprises, les gouvernements aussi ont besoin des hackers pour lutter contre. Si tu n'es pas hacker, tu ne peux pas lutter contre un hacker. C'est parce que tu as pris la sécurité en informatique que tu peux lutter contre un hacker. Tu as des éléments, des équipements, des pôles de logiciels qui sont mis à ta disposition pour essayer de protéger un peu l'entreprise pour laquelle tu travailles, mais lutter contre les hackers, c'est autre chose. Il faut l'être. Si tu ne l'es pas, tu ne peux pas lutter. Tu ne connais pas la manière de travailler. Alors, donc ceux-là, les black hats, là, les criminels. C'est les hackers, c'est les pirates qu'on appelle des criminels. Ceux-là, ils sont là pour... Voilà, vous détruisez tout sur les passages, quoi. Ils ont, ceux qui attaquaient tout le temps Microsoft à l'époque parce qu'ils étaient contre le fait que Microsoft détenait tout le marché de l'informatique, des logiciels et autres. Voilà, donc ça, ceux-là, ils ne veulent pas changer, hein. Même les entreprises viennent les chercher pour des millions de dollars par année. Non, 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 ils veulent pas entendre parler d'argent. Ils sont déjà riches en étant déjà mauvais garçons. Il y a d'autres qui ont vu leur caution de prison payée par des grandes entreprises pour aller travailler pour eux, pour elles. C'est comme ça. Donc, toutes ces grandes entreprises, tous les gouvernements ont des pirates informatiques qui travaillent pour eux maintenant. Ça, personne ne peut vivre sans eux. Voilà. Donc, ceux-là, ils ont toujours l'intention de détruire, d'attaquer les ordinateurs, les serveurs, les données sensibles des grandes entreprises ou bien des gouvernements. Et puis, voilà, c'est le motif, hein, c'est une fois toujours de trouver quelque chose là-bas pour essayer de faire du mal, ça il faut le dire. Et puis, maintenant on les appelle les white hats, ceux qui sont on les appelle plus les bad boys, ça va pas les mauvais garçons, les bienveillants. Ce sont les hackers, les pirates autorisés, comme je le dis. C'est ceux-là qui sont engagés par les grandes entreprises et les gouvernements ou bien les organisations internationales pour veiller sur le système, sur les données, sur le système informatique. On les appelle maintenant les pirates autorisés. Allez-y comprendre quelque chose. et ils ne vont plus en prison, là. Mais il y a d'autres qui ont déjà fait la prison parce qu'ils étaient parmi les mauvais garçons. Ensuite, il y a les grey hats. Ceux-là, ils sont là au milieu, là. Ils font ça pour le plaisir, pour créer, pour foutre du bordel, voilà. Ils vont jamais accepter d'être du côté des blacks ou bien des white hats. Voilà, ils sont là, ils foutent la merde. C'est comme on dit en bon français. Ouais, ils foutent du bordel. Voilà, et puis bon, mais il y a ceux qu'on appelle les script kiddies, c'est les amateurs, des pirates amateurs qui essaient de montrer à leurs amis qu'ils peuvent faire quelque chose, quoi, à leur père pour dire, ah, moi aussi, je peux attaquer ça, je peux faire ça. Bon, et puis, bon. Et puis, les greens. Les verts, ceux-là, ils sont en entraînement, ils sont débutants, on se dit, c'est hackers in training, le motif pour eux, c'est, je veux aussi, moi aussi, voilà, à un moment donné, en faire de ça mon métier. Et puis, ils vont chercher un coach, quelqu'un qui est déjà dans le milieu, qui s'y connaît très bien, voilà, qui est tout le temps sur le dark web, qui sait comment rentrer, avec quel code, tout ça, et puis ça y est, quoi. Et puis, il y a le Blue Hat. Ceux-là, ils sont spécialisés, ils sont engagés par les sociétés qui font des logiciels pour aller trouver des failles dans ces logiciels-là. Ça, c'est des... Ils sont autorisés. Ils sont payés par les entreprises. Je me rappelle d'un jeune Sénégalais et d'un jeune Chinois qui sont mis ensemble pour... En moins de 15 minutes, ils ont débloqué le logiciel de Tesla. En moins de 15 minutes. Bon, ça, ce sont pas des mauvais garçons. C'est la compagnie qui vient les chercher pour dire, ah là, on a entendu parler de vous. Est-ce que vous pouvez nous prouver qu'il y a des failles dans le logiciel de notre voiture Tesla? En moins de 15 minutes, ils ont tout débloqué. Voilà, ça, ils font changer. C'est comme ça. On va revenir là-dessus parce que la liste est très longue. Il y a plus d'une dizaine de catégories de pirates informatiques maintenant. Voilà, et puis, on termine la première partie en compagnie de qui? De Gainsbourg, qui nous chante... aux armes et etc. Écoutez Gainsbourg.
Allons enfants de la patrie, aînés n'y sont plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu.
C'était Gainsbourg, vie héroïque, aux armes, etc. Voilà, on termine la première partie de l'émission comme ça. En beauté, restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, je vais recevoir mon invité. Voilà, Nicolas Lemieux qui va venir nous parler de la célébration de la fête des mères avec Bébé Symphonique. Voilà, on parlait de ce coffret, album, livre, magazine. Voilà, c'est ça. Allez, à tout de suite après la petite pause publicitaire.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Là, on vient d'écouter Bébé Symphonique, berceuse pour nouveau-né, fantaisie pour animaux, adagio en pyjama, 3 ans, c'est très court, 1 minute, 30 secondes, 30 secondes. L'invité est déjà au bout du fil avec nous. Oui, oui, Nicolas Lemieux, qui est le président de GSI Musique, directeur artistique de ce coffret, de ce boulot, de ce chef-d'œuvre. Un coffret CD, beau livre, magazine et ensemble cadeau, voilà, pour célébrer la fête des mères aussi, pas seulement ça, c'est pour les petits, les tout petits, pour les grands aussi, c'est pour tout le monde en vous faites quoi, je ne sais pas. Bonjour Nicolas Lemieux.
Bonjour, vous allez bien?
Je vais bien, merci et vous?
Oui, merci beaucoup.
Merci d'avoir le temps de nous parler de ce cadeau que vous faites aux mélomanes les yeux d'abord, c'est-à-dire la photographie dans ce livre et puis dans ce magazine et puis pour les oreilles, la musique, l'album. Merci à vous et à toute l'équipe, à tous ceux qui sont derrière ce travail-là.
Ouais, il y a vraiment beaucoup de monde. Moi, je suis un peu comme le chef d'orchestre de tout ce grand projet-là, mais il y a tellement de talent autour de moi pour avoir réalisé c'est un projet un peu fou.
Oui, c'est mais... une fou. Mais c'est quelle mouche qui l'a piqué?
Ah non, c'est un projet qui est quand même ambitieux, qui est fou et qui était quand même assez osé parce que c'est, il y a pas grand-chose qui se fait pour les petits bébés puis pour les familles puis tout ça. Puis
on c'est pour tout le monde, hein, pour tout le monde.
Ah oui, c'est sûr. C'est sûr qu'on peut tout écouter ça, mais l'objectif premier, c'était la relation, l'attachement.
Parents-bébé-enfant.
Bébé ouais. Et ses parents, puis tout ça. Donc, c'était vraiment ça l'objectif. Puis, quand on travaille un grand projet de même, parce que ça a duré presque 4 ans de gestation puis de production, jusqu'à temps que ça s'en aille au grand public, on sait jamais c'est quoi la réaction, mais là, je peux vous confirmer officiellement que ça fonctionne.
Ça fonctionne. Bravo, félicitations. Non, vraiment, quand j'ai vu sur mon ordinateur, j'ai vu la version numérique parce que j'ai pas eu le livre en papier. Alors, mais de belles photos, de très belles images. Les enfants, mais ce photographe-là, dites-lui merci, bravo de ma part.
Écoute, c'est un travail de moine parce que je vais vous dire une chose de. La grandeur de ce que j'avais dans ma tête a été réalisée par la photographe Annie Savard-Filion qui a photographié 83 jeunes bébés entre 0 et 18 mois.
Wow.
Donc, il y avait toutes sortes de bébés de différentes couleurs.
Oui.
Il y avait des bébés différents. Il y avait toutes sortes de considérations que moi, je voulais que ça représente la société vraiment aujourd'hui. Puis, tu sais, pour moi, tous les bébés sont beaux. Donc,
oui.
Tu sais, il n'y a pas de religion, il n'y a pas rien de ça. Nous, c'était de vraiment comme dire, regardez, ça, c'est la vraie vie, puis on veut présenter la vraie vie.
Oui, oui.
Ça, pour moi, c'était très important. Puis, on voulait associer un bébé avec un instrument de toute l'Orchestre symphonique de Montréal. Donc, il y en avait 83. C'était tout un défi de faire ça, parce que de faire des photographies avec des jeunes bébés, c'est pas évident.
C'est pas évident.
Les instruments sont froids, donc il fallait que chaque bébé apprivoisait l'instrument.
Oui.
Quand c'était l'heure du biberon, il fallait arrêter.
Voilà!
Donc, c'est vraiment un projet... mais ça a été, c'était un enregistrement et tout le projet créatif rattaché à ça, le travail de Simon Leclerc qui a composé l'œuvre est magnifique.
Oui.
Simon s'est mis dans la peau de jeunes bébés naissants. Donc, tu sais, on a vraiment touché, je pense, le cœur avec la musique. Puis après, on l'a emmené en photo. Après, on l'a emmené au Dôme, au Planétarium, où c'est un succès phénoménal. Écoute, ils ont vendu 20 000 billets.
Oui.
C'est incroyable. Wow. C'est comme si on pensait que c'est un Centre Bell avec 20 000 bébés. C'est quand même assez fou, là.
C'est fou. C'est comme... c'est toute une fou. Ouais, non, c'est vraiment... Comme disent les Français, c'est ouf.
Ah ouais. Puis ça fait du bien aux gens. Mm-hmm. Ça fait un moment... C'est des moments précieux que... Tu sais, on se met dans la vie là, de nouveaux parents, que la maman elle vient de passer plusieurs mois avec le bébé dans son ventre. Après, il y a toute la post-mortem après, de tout ça qu'on peut. Fait que de provoquer des sorties de cette façon-là en consommant de la belle musique, en consommant des images que ça capte les bébés, que ça capte les parents. En fait, on s'est rendu compte, comme le projet est fait pour 0-18 mois, mais même quelqu'un de 50 ans qui voit ça, il est comme « wow ».
Non, mais c'est toute une... Moi, j'appelle ça une architecture photographique. Vous êtes satisfait de du résultat de votre travail, Nicolas?
Je peux dire que il y a des points que après avoir travaillé puis quand ça a sorti, je pense que j'améliorerais encore plus certaines affaires parce que je suis extrêmement pointilleux dans la délicatesse du travail que je fais.
Oui.
Mais je pense que pour moi, ce qui était le plus important, c'est la réaction du public, puis la réaction des bébés. Donc ça, je peux dire, check, c'est fait, les gens sont contents, tout ça. Mais là, comme le projet a 3 volets, ça c'est bébé 1, tout le scénario avec les 7 volets, l'exposition photo, l'album, le beau livre, le magazine, le show immersif, les concerts live qui va se passer avec l'OSM. Tout ça, pour moi, était un écosystème pour faire triper les parents, pour faire triper les bébés. Là, j'ai compris beaucoup de choses avec ce que je viens de vivre avec la sortie du projet.
Oui.
Puis là, je suis en train de présentement de préparer Bébé 2.
La phase 2.
La phase 2 qui va être les comptines autour du monde. Puis là, je sais encore plus qu'est-ce que ça me prend pour faire triper encore plus les parents et les bébés.
C'est pas seulement les parents. Moi-même, je tripe. Quand je... C'est pas seulement les bébés et les parents. Même, je suis pas parent, je suis pas bébé, mais je tripe. J'étais scotché, Nicolas, je vous le dis. J'étais scotché devant mon ordi. Là, je regardais les photos. Là, je... Oh putain, on lui dit, mais c'est pas possible.
Ah non, mais c'est un travail de moine, là.
Oui.
C'est vraiment un travail de moine. Faut être un peu fou pour faire les affaires de moine.
Non, non, bravo. Bravo, félicitations à vous et à toute l'équipe. Là, vraiment, c'est... Alors, on va parler un peu de l'exposition, voilà, Place des Arts, qui
ouais.
Voilà, ça va jusqu'au... Ça a commencé le 19 avril, ça va jusqu'au 14 août.
Exactement. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment ouvert à tout le monde, c'est gratuit, c'est vraiment un travail. Il y a une commissaire qui a fait... un travail extraordinaire, toute l'équipe de Place des Arts. C'est vraiment magnifique de voir ces grandes photos géantes-là, puis tout l'esprit entre l'art de la musique versus tout l'aspect des bébés, puis tout ça. C'est vraiment magnifique. C'est,
ouais.
c'est vraiment le fun, pour vrai.
Oui, oui. Moi, le 14 août, j'ai encore du temps pour vous faire un petit crochet là-bas. Et c'est les horaires, c'est du mardi au vendredi, c'est de 16h à 20h. Et puis les samedis, dimanche, c'est de 12h à 20h.
Exact.
Oui, oui.
Exactement. Puis il y a aussi le planétarium qui va jusqu'au mois de novembre. On a rajouté une troisième série supplémentaire.
Oui.
Puis on est en train de battre tous les records de toute l'histoire du planétarium.
Avec
ce film-là.
Mais bravo,
c'est
bravo.
Cool. Puis je tiens à dire aussi que la délicatesse de tout l'accueil du planétarium pour recevoir des bébés en poussette avec leurs parents, avec faire chauffer des biberons et les gens peuvent... Tu sais, c'est le maître du jeu, c'est le bébé.
Oui, oui.
Et
oui.
On laisse bébé faire ce qu'il veut. Et ce qui est vraiment, vraiment cool, là, ça, c'est quelque chose que j'aurais pu jamais prévoir, c'est que c'est la première sortie officielle des bébés, presque. Alors, c'est la première fois que les bébés voient d'autres bébés. Alors, pouvez-vous imaginer quand il y a 50 bébés dans la même pièce avec un nombre? Écoute, le party se pogne, ils se répondent. C'est incroyable de voir.
Je
ça.
Peux m'imaginer, oui.
C'est vraiment fou. Puis c'est là que je me suis aperçu, que je me suis dit, c'est vraiment vrai que à cet âge-là, tout se capte plus vite.
Donc, oui, oui, c'est vrai.
Les
c'est
couleurs,
vrai.
Les formes, les autres bébés, les gestes. Tout est nouveau pour eux.
Donc,
imaginez-vous, là, 50 bébés qui se voient pour la première fois, qui voient d'autres bébés, c'est fou, raide.
Et puis, c'est ce qui fait que les jeunes apprennent beaucoup plus les langues que les parents. D'ailleurs, ouais, au bas âge, c'est comme ça. Et Nicolas, on va écouter Largo, Rêverie, ouais. Et puis Serena en poussette.
Parfait.
Ouais. Bébé symphonique, Largo, Rêverie et Serena dans Poussette. Alors, comme Nicolas l'a déjà annoncé, il y aura des supplémentaires au Planétarium Rio Tinto de septembre à novembre 2022. Ça, c'est, n'hésitez pas, ça va être, C'est une manière d'éveiller, comme c'est dans les communiqués, de façon ludique, la vue et l'ouïe des enfants de la naissance à 18 mois. Cette audacieuse proposition marie harmonieusement l'animation 2D, 3D, l'image par image avec l'univers musical de l'album Bébé Symphonique. Alors, pour ceux qui aimeraient en savoir plus, allez-y sur le site simplement de bébésymphonique.com. Vous allez avoir toutes les infos, les belles photos, vous pouvez acheter là-bas. Voilà, comment les gens peuvent se les procurer, le coffret?
C'est vraiment la seule façon de l'avoir, c'est sur bébésymphonique.com. Il n'y a pas d'autre façon de l'avoir.
Oui.
C'est simple.
Ok, mais j'ai lu que vous êtes en collaboration avec certains Jean Coutu, là, pharmacie, certaines Jean Coutu.
Oui, qui... c'est vrai, l'album, le magazine, oui, c'est vrai, dans certains Jean Coutu, vous pouvez l'avoir en région, un peu partout, ces trucs-là.
Oui.
Mais concernant pour tout ce qui est billets, planétarium, puis pour avoir le plus d'informations, c'est tout sur le site de bébésymphonique.com. Mais en effet, c'est sûr qu'au niveau du CD, ils peuvent se procurer physiquement aussi chez Jean Coutu.
Oui.
Mais ils peuvent l'avoir aussi directement avec le site bébésymphonique.com pour l'avoir chez eux.
C'est ça. Parce que quand je suis allé voir sur votre site aussi, effectivement, on peut l'acheter là-bas. Ou bien si on a une pharmacie participante, moi, qui collabore avec vous. Comment vous avez réussi à les convaincre?
Ben, ça n'a pas été difficile, en fait, parce que pour être très, très transparent, au début, je ne voulais pas de détaillant.
Oui.
Parce que je voulais un seul point de chute, parce que vu qu'il y avait 7 volets, je voulais que la communication, puis pour les parents, pour que tout le monde, ça soit clair avec une adresse.
Oui.
Mais quand on a eu des discussions avec Jean Coutu, c'est quand même le plus grand réseau des pharmacies, puis que... C'est quand on est toutes des mamans, on veut aller chez Jean Coutu. Alors, quand ils ont vu le projet, ils ont craqué tout de suite, puis ils m'ont appelé, puis ils m'ont dit, écoute, on aimerait vraiment embarquer dans le projet. Puis j'ai cédé, j'ai dit oui.
Ouais. Oh, wow! Vous voyez, c'est pas seulement les enfants qui craquent, mais aussi nous, les adultes. Tout le monde, quoi.
En effet, ouais.
Non, des images, non, les yeux en pleine, vraiment, que je regarde ça, j'ai dit waouh, bravo, un bébé symphonique pour d'oublier les parents, c'est outiller les parents pour leur permettre de participer à l'éveil musical de leurs enfants. C'est beau, ça. Très poétique.
C'est vraiment, il y a toutes sortes de situations. Vous pouvez même pas vous imaginer tous les commentaires qu'on reçoit.
Oui.
Des fois, le bébé se réveille la nuit, puis il braille, puis tout ça, puis les parents nous disent, ils mettent la musique tranquille. Puis le bébé se rendort, puis tu sais, il y a toutes sortes de situations qu'on peut écouter ça. Ça calme aussi beaucoup. Puis il y a tellement des sonorités qui vont chercher l'éveillement de nos petits enfants. Ça fait des beaux moments. Puis c'est ça. Puis avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est de passer des moments privilégiés avec les gens qu'on aime, dont les bébés, puis dans notre famille, puis tout ça. Puis
oui.
Je trouve que c'est un projet qui revient à la base, l'essentiel de notre existence, pourquoi qu'on est là, de passer des beaux moments. Puis
oui.
Je pense que c'est un projet qui est fait pour ça, tu sais.
Oui, et puis il faut le dire, le magazine et le livre, c'est de la beauté pure, hein. C'est de la beauté pure.
Avec le talent de Simon Leclerc, puis le talent de l'Orchestre symphonique de Montréal, on pouvait pas frapper mieux ensemble, tu sais. Tous les musiciens qui ont travaillé là-dessus, c'est les meilleurs qu'il n'y a pas au Canada. Donc, puis Simon a créé un œuvre vraiment, vraiment cool. Puis même les noms de toutes les chansons, tu sais, c'est tout lui qui a décidé ça, des noms. C'est vraiment bien fait.
Wow. Wow. Ouais. On lui dit merci. On lui dit bravo et merci aussi.
Totalement.
Oui. Ouais, ouais. Et la marraine du projet, Marie-Claude Barrette.
Ah oui. Je suis tombé en amour avec Marie-Claude Barrette. Je ne la connaissais pas.
Oui. Qui vous a mis en contact?
En fait, c'est que j'écoute rarement la télé, puis je produis beaucoup de choses, donc je suis vraiment occupé, ok? Je fais beaucoup de projets, moi, puis je suis un feu roulant créatif de production. C'est ma passion. C'est mon travail, c'est comme ma passion. Puis je sais pas pourquoi, un dimanche soir, j'écoutais la télé, puis j'ai tombé sur « Il y a du monde à la messe », puis elle était une invitée de cette émission-là.
Oui.
Et elle s'est mise à parler de sa relation avec ses parents. Puis moi, je venais de perdre mes parents qui sont décédés.
Ouais.
Et c'est venu me toucher direct au cœur. Puis j'ai dit « Aïe, aïe ». En ne sachant pas que Marie-Claude, elle avait déjà été... enseignante dans une école de musique, tout ça. moi, c'est son cœur qui m'a frappé.
Oui.
Donc, moi, j'ai écrit sur Facebook en message privé, j'ai dit, écoute, je te connais pas, mais j'ai dit, j'ai un grand projet que je travaille depuis plusieurs années, puis ce projet-là est pour toi.
Wow.
Elle m'a réécrit tout de suite, j'y ai présenté ça, elle a tombé en amour avec le projet, puis j'ai dit, Marie-Claude, j'ai dit, j'aimerais vraiment que tu sois la marraine. Cette femme-là, là, c'est une femme de contenu,
oui.
C'est une femme de cœur, c'est une dame de cœur, c'est quelqu'un qui communique tellement bien avec les gens.
Mm-hmm.
Je pouvais pas trouver une meilleure marraine pour faire ça, ouais, que Marie-Claude Barrette.
Authentique, très authentique.
Et vraiment, là, elle fait un travail incroyable, le travail qu'elle a fait avec sa fille Angela pour tout commenter, toutes les photos, mm-hmm, dans le beau livre. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Puis je suis content parce qu'elle est capable de mettre vraiment les bons mots bien mieux que moi puis que n'importe qui pour décrire l'émotion rattachée à ce projet-là. Puis il y a aussi tout l'aspect éducatif où ce que Marie-Claude est vraiment calée là-dedans avec tous les gens qu'elle connaît autour de ça. Donc, elle a amené une dimension au projet très, très importante. Puis elle a embarqué, elle a sauté dans ce projet-là puis elle s'est amusée. Puis elle aussi, quand elle a vu les photos, quand elle a vu, elle a assisté à l'enregistrement. Écoute, elle est tombée sur le charme. C'est vraiment un beau projet.
Ah oui, non, c'est un très beau projet. Vous avez parlé du deuxième, là, de la phase 2. On va revenir là-dessus, mais on va parler un peu du magazine qui est riche en enseignement aussi. Ça parle, oui, de musicologie, d'ethnomusicologie, de,
oui,
pédopsychologie, de musicothérapie, d'éducation, tout ça. Comment vous avez pu joindre ces spécialistes-là pour venir mettre le petit mot, le petit grain de sel là dans ce magazine?
Ben, moi, c'est important parce que, tu sais, l'Orchestre symphonique de Montréal a un secteur éducatif.
Oui.
Okay? Mm-hmm. C'est vraiment une mission, c'est dans la mission de l'Orchestre symphonique de Montréal d'offrir des projets qui sont éducatifs. Quand je suis arrivé avec ce projet un peu fou, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, Nicolas, c'est quand même assez ambitieux ce que tu veux faire.
Oui.
J'ai dit oui, mais j'ai dit, pour moi, la base de ça, je le rappelle, c'était l'attachement. Vraiment, là, pour moi, c'était le mot magique du volet 1. J'ai dit, je veux vraiment rattacher l'attachement à plusieurs sphères éducatives par rapport au projet. Puis j'ai dit, je veux qu'on y aille chercher des spécialistes. Puis je veux vraiment qu'on explique aux gens,
oui,
aux nouveaux parents,
oui,
qu'est-ce que ça fait de consommer de la musique de cette façon-là à un bas âge, puis qu'est-ce que ça fait au niveau psychologique, qu'est-ce que ça fait au niveau émotionnel, qu'est-ce que ça fait au niveau physique.
Oui.
Alors, tout ça au complet, pour moi, c'était important de documenter ça. Je voulais pas juste sortir un album pour sortir un album. Je voulais avoir une raison vraiment intelligente de vraiment pour vraiment communiquer ça aux parents puis faire vivre quelque chose de différent au bébé. Parce que ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que les projets pour bébé, il y en a beaucoup.
Oui.
C'est beaucoup d'affaires, des choses comme un peu gaga, ludique, des trucs de même. Puis quand on écoute ça, on sent comme... C'est vraiment démocratique dans le sens que la musique, on essaie de la démocratiser parce que c'est un orchestre symphonique. C'est pas tout le monde qui est habitué d'écouter ça.
Non, c'est une manière de démocratiser.
Exactement. Puis moi, je me suis dit...
Nicolas, il nous reste 10 secondes.
Oui.
Un dernier mot rapidement.
Ben, merci à vous d'en parler parce que c'est vraiment super. Ça, je suis content. Puis je suis content que vous aimez ça. Puis je souhaite vraiment du bonheur aux parents. Je souhaite une belle fête des mères aussi. Puis allez écouter ça, bébésymphonique.com. Puis merci beaucoup pour tous les commentaires positifs, c'est vraiment apprécié.
Nicolas, au plaisir de vous réentendre, de vous réavoir ici pour la phase 2.
Merci.
À bientôt, bonne soirée.
Bye
bye. Bye. Blair Bryan, Carmel Dream. Merci à toi, Maurice. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, merci à notre invité, à Nicolas Lemieux, qui est venu parler de, c'est le président de GSI Musique, qui est venu parler de la célébration de la fête des mères avec Bébé Symphonique. Voilà, le coffret. Merci à vous, chers fidèles auditeurs, et on vous dit belle fin de semaine, et je vous dis ciao. Merci à Catherine Baudreau. Allez, ciao.